le magazine des Nations Unies.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au magazine des Nations Unies. Voici les principaux titres de l'émission de ce dimanche. De graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire ont été commises entre le 15 novembre et le 2 décembre 2012 sur l'axe Goma-Sake-Minova. Un rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, rendu public le mercredi, attribue ces violations aussi bien au M23 qu'au FARDC. Dans cette émission, vous entendrez le général Wafi Abdallah, commandant de la police UN, s'exprimer à ce sujet. Autre violation aussi, dans le Katanga, Ocha signale la recrudescence de graves atteintes aux droits de l'homme dans le triangle de la mort, axe compris entre Pueto, Manono et Moba. Notre invité, un responsable de cette agence onusienne, nous fait le point de cette situation. Enfin, santé, attention, l'automédication et le traitement des maladies à domicile font des victimes, surtout parmi les enfants. Une enquête vient de le démontrer à Isangi en province orientale et c'est ce qui justifie une campagne de sensibilisation qu'a pris l'OMS dans ce territoire. Ce sont là les grands titres de cette émission.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, a publié mercredi 8 mai à Kinshasa et à Genève son rapport sur les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Des violations commises en novembre 2012 au cours des combats entre les FARDC et les rebelles du M23 autour de Goma dans la province du Nord Kivu. Scott Campbell, directeur du BCNUDH, a présenté ce rapport au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Nicole Ngakamadidi, signe sur reportage.
Dans ce rapport, le Bureau conjoint des Nations Unies met en cause aussi bien les rebelles du M23 que les forces gouvernementales congolaises. À charge des FARDC, le rapport fait état notamment des meurtres et des exécutions arbitraires, des viols massifs ainsi que des pillages généralisés. Scott Campbell, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies.
Les violations des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires commises par les militaires des FARDC ont été perpétrées principalement au moment où les unités de cette armée quittaient les lignes de front pour se regrouper dans la ville de Minova et ses environs, territoire de Kalehe, au sud Kivu. C'est dans ce contexte qu'au moins 102 femmes et 33 filles ont été victimes de viols et d'autres actes de violence sexuelle perpétrés par des militaires des FARDC. Ces militaires ont également été responsables de l'exécution arbitraire d'au moins 2 personnes, de violations de droits à l'intégrité physique d'au moins 24 civils, de plusieurs cas de travail forcé et du pillage généralisé dans les villages.
En ce qui concerne les rebelles du M23, le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies documente pendant l'occupation de Goma et de Sake au moins 59 cas de violences sexuelles, dont 58 cas de viol, en exécution arbitraire parmi les civils, plusieurs cas de recrutement et d'utilisation d'enfants, le pillage, le travail forcé, des traitements dégradants et cruels. Au-delà de ces faits, la MONUSCO se félicite néanmoins du nouvel état d'esprit depuis quelque temps observé chez les autorités congolaises dans le traitement de ce genre de sujet. Le général Abdallah, commandant de la police des Nations Unies en RDC.
En tant que responsable ici au niveau de la MONUSCO, je voudrais une fois de plus noter, souligner pour m'en réjouir, le changement d'attitude dans le traitement de ces questions délicates. Je vais vous dire honnêtement, il y a seulement quelques années, de tels faits portés à la connaissance du public étaient une question qui fâche avec les autorités congolaises. Aujourd'hui, nous discutons de cela avec le ministre de la Défense, avec l'auditeur militaire général, des actions sont prises et c'est, je pense, un grand pas vers la lutte contre l'impunité. Il faut encourager les autorités congolaises à aller vers cela. Et je crois que c'est ce qui est important. Notre action est aussi une action pédagogique. Nous voulons aider les FARDC et les autorités congolaises à avoir une armée plus respectueuse des droits de l'homme. Une armée professionnelle qui protège sa population et qui ne viole pas ses femmes.
À ce jour, 12 officiers supérieurs de l'armée congolaise ont été suspendus de leurs fonctions suite aux enquêtes sur les incidents de Minova, indique le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Parlons maintenant de l'emploi des jeunes. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a diligenté une enquête portant sur le déterminant de l'emploi des jeunes dans la ville province de Kinshasa. Jeudi 9 mai dernier, quelques acteurs publics et privés concernés par cette problématique ont suivi et réfléchi sur les raisons et les conclusions de cette enquête. Ernest Bamou, conseiller économique au PNUD RDC, a coordonné l'enquête sur les déterminants de l'emploi des jeunes à Kinshasa. Il répond aux questions d'Honoré Missenga-Kalala.
Monsieur Ernest Bamou, bonjour.
Bonjour Radio Okapi.
Vous êtes conseiller économique au bureau PNUD RDC. Vous venez de coordonner une étude sur les déterminants de l'emploi des jeunes de la ville de Kinshasa. Commençons par définir le concept. Qu'est-ce que vous entendez par déterminant de l'emploi?
Les déterminants de l'emploi, en fait, c'est tout simplement tous les éléments qu'on peut considérer comme les atouts qui permettent à ce que quelqu'un qui veut du travail puisse accéder à ce travail-là. Ça part à la fois de la quantité de travail qui est offerte sur le marché, à la capacité des chercheurs d'emploi à accéder à ce travail-là, c'est-à-dire leur niveau de diplôme, leur âge, voilà un peu en général ce que nous appelons déterminant de l'emploi.
Alors, qu'est-ce qui a justifié cette étude?
Ce qui a justifié cette étude, c'est tout simplement le taux super élevé de l'inoccupation des jeunes, non seulement dans la République démocratique du Congo, mais particulièrement dans la ville de Kinshasa, où nous remarquons tous ces phénomènes négatifs des Kuluna et autres qui sont tout simplement les manifestations de l'inemployabilité des jeunes et qui, faute de mieux, se déversent à ces activités-là qui sont suffisamment pénalisantes pour le développement et l'image même de marque du pays.
Alors, qu'est-ce que le PNUD s'est fixé comme objectif en organisant cette étude?
Le PNUD a eu un objectif simple. D'abord, attirer l'attention de toute la communauté, c'est-à-dire les décideurs comme la société civile, y compris les universitaires, sur cette question d'emploi. Entre autres objectifs du PNUD, c'était de lancer le débat, c'est-à-dire permettre à cette communauté nationale, effectivement, de s'asseoir autour d'une même table et de dialoguer sur le problème. Parce que ça aussi, c'est une des missions fondamentales du PNUD, c'est-à-dire d'animer le dialogue pour qu'effectivement, rechercher un consensus sur les questions brûlantes, les questions d'actualité dans le pays où le PNUD intervient et les questions particulièrement qui tirent vers les questions de développement. Et l'emploi est une des questions fondamentales et d'actualité de l'heure.
Au cours de cette étude, vous vous êtes posé deux questions principales. C'était quelles questions?
En réalité, il y avait deux questions principales. Comme on dit tout à l'heure, quand je vous parlais des déterminants de l'emploi, je vous ai dit qu'ils étaient de deux sens. C'est-à-dire que celui qui vient de l'offre, c'est-à-dire que les conditions d'offre du travail, et celui qui vient de la demande, c'est-à-dire que les conditions de celui qui veut accéder au travail. Effectivement, on s'est donc posé la question de savoir, est-ce que le fait que les gens ne travaillent pas vient du fait que ils n'ont pas, eux, en tant que demandeurs de travail, les conditions remplies? Ou alors, est-ce que c'est parce que ceux qui offrent le travail n'ont pas les conditions réelles pour pouvoir permettre à ceux qui demandent à travailler d'accéder à ce travail?
Donc, c'était la première question.
Ça, c'est la première question.
Et la deuxième?
La deuxième question, donc, c'était, ok, quelle que soit la relation qu'il y aura entre ces deux-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer l'accès au travail de cette catégorie sociale?
Et vous y avez trouvé des réponses à ces deux questions?
Bien sûr, les réponses ont été trouvées. Mais comme on dit, ce n'est pas des réponses péremptoires. Ce n'est pas des réponses qui sont comme des paroles d'évangile. C'est des propositions de chercheurs. Et entre autres réponses, on vous a dit effectivement que bien sûr, les gens veulent chercher du travail, ils le font. On a découvert effectivement que à la première question, c'est la défaillance du système, de l'autre côté du système, de l'offre du marché du travail, que les caractéristiques propres aux demandeurs de travail. Ça c'est clair, mais il y a toujours beaucoup de questions, comme vous avez vu le débat dans la salle suscité, sur est-ce qu'il n'y a que ça là à faire? Et au nombre de la deuxième question, il y a quand même un nombre de résolutions, de solutions qui ont été proposées. Mais comme on dit, les solutions ne sont pas globalisantes. Il faut effectivement parfois poursuivre l'analyse pour affiner les propositions de réponse qui étaient un peu générales à ce stade-ci de l'étude.
Pourquoi vous avez ciblé seulement la ville de Kinshasa?
Pour deux raisons fondamentales. La première raison est d'ordre systémique. Le phénomène du chômage de la jeunesse est plus visible dans Kinshasa, à travers d'ailleurs les phénomènes sociaux que je vous ai mentionnés tantôt, c'est-à-dire les Kulunas et autres, les mendiants sur la rue et comme ça. Donc c'est vraiment patent et ça là, ça attire l'attention de tout le monde. Deuxième raison, c'était la limitation de nos ressources financières. D'où dans le message que le PNUD a fait passer, l'appel lancé à toute la communauté, pas seulement internationale, mais aussi nationale, pour pouvoir s'associer, puisque les moyens sont toujours limités, et que ensemble on fait toujours mieux qu'une personne, pour pouvoir donc se joindre les moyens pour poursuivre cette étude et élargir le champ.
Dans les discussions que nous avons suivies, on a soulevé, entre autres, le problème de l'inadéquation entre la formation et les besoins d'emploi.
Oui, c'est vraiment une question, mais il faut bien qu'on se dise que cette problématique n'est pas propre à la RDC. C'est une problématique qui se retrouverait dans tous les pays du monde, je dis bien du monde, c'est-à-dire dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. Mais qu'à cela ne tienne, et compte tenu de la spécificité de l'étude que nous étions en train de faire aujourd'hui, qui était limitée autour des deux questions dont je vous ai parlé tantôt, il n'était pas fort aisé pour les chercheurs d'aller au-delà de ce champ d'analyse qui s'était limité. Mais c'est quand même une problématique qui non seulement peut faire l'objet de toute une autre discussion autour de la table et des partenaires qui sont dans cette chaîne-là, c'est-à-dire les formateurs, les demandeurs d'emploi, les décideurs, tout ça là. C'est vrai que les débats autour de la question ont soulevé la nécessité effectivement d'étendre l'étude vers ces problématiques qui sont aussi d'intérêt.
Monsieur Ernest Bamou, je rappelle aux auditeurs de Radio Capi que vous êtes conseiller économique au PNUD RDC. Merci de votre disponibilité.
Merci Radio Capi.
Cette page de nouvelles en bref par cette triste nouvelle, la mort d'un casque bleu pakistanais tué lors d'une attaque perpétrée mardi dernier contre un convoi militaire de la MONUSCO entre Walungu et Bukavu au sud Kivu. C'est une attaque lâche et injustifiée, avait déclaré Roger Miff, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC. Sous l'instigation du Bureau conjoint des Nations Unies, une trentaine de partis et organisations politiques du Kasaï oriental, toutes tendances confondues, ont signé lundi 6 mai dernier à Mbujimayi leur code de bonne conduite, un texte de 8 pages reprenant les devoirs et les obligations auxquelles les signataires ont volontairement souscrit. Quittant le Kasaï oriental pour la province orientale où 22 villages de 3 zones de santé, Isangi, Yakoussou et Bafouassende, accèdent désormais à l'eau potable et appliquent des règles d'hygiène pour se protéger contre les maladies. C'est le résultat du programme de l'UNICEF École et Villages Assainis en cours dans ces contrées. Ce programme consiste à construire des puits d'eau et à sensibiliser la population aux règles d'hygiène. Dans ce projet, 8 écoles de la place sont déjà dotées de plus de 80 latrines scolaires et de brigades d'hygiène. L'UNICEF compte étendre ce projet dans plus de 500 villages et 90 écoles des districts de la Tchopo et du Bazouilé d'ici à 2017. Enfin, un lot de médicaments et matériels médicaux a été mis à la disposition de 10 aires de santé de la province du Nord Kivu, un don du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, HCR, pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Il est constitué notamment d'antibiotiques, d'antirétroviraux et de matériel de tests de grossesse. Le médecin inspecteur provincial de la place a réceptionné ce don du HCR mardi 7 mai à Goma.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Les territoires de Manono, Moba et Pueto au centre de la province du Katanga sont en proie ces derniers mois à un regain de graves violations des droits de l'homme. C'est ce qu'allègue un rapport du Bureau de coordination des Nations Unies pour les affaires humanitaires OCHA. Un rapport publié fin avril 2013 l'a déclaré. Notre invité du jour est Yvan Edoumou de la section information publique de cette agence. Il nous fait le point de ce rapport dans cet entretien avec Honoré Missenga Kalala. Suivez.
Yvan Edoumou, bonjour.
Bonjour.
La crise au milieu du triangle de la mort en RDC, les défis de la protection des civils au Katanga. D'abord, quel est ce triangle de la mort?
Le triangle de la mort est en fait une zone très spécifique au Katanga, comprise entre les territoires de Manono, Pueto et Mitwaba, qui donc schématiquement forment effectivement un triangle, où nous avons constaté depuis ces derniers mois une recrudescence de violences, de violations des droits de l'homme, de graves atteintes à la protection des personnes. Nous avons sorti ce rapport pour mettre un peu de lumière sur cette situation et interpeller les différents acteurs, notamment les autorités congolaises, sur la protection de ces personnes.
C'est pourquoi vous dites que c'est une crise oubliée.
Oui, c'est quelque part une crise oubliée parce qu'aujourd'hui nous sommes tous focalisés sur les Kivu et même là encore, particulièrement sur le Nord Kivu, mais il faut savoir que l'Est du Congo est une zone totalement en crise depuis plusieurs années et il ne faut pas oublier les autres parties du pays, comme cette partie du Katanga.
Quelles sont les grandes violations des droits de l'homme enregistrées dans ce triangle de la mort?
Nous avons beaucoup de dégradations qui sont commises évidemment par les groupes armés, que ce soit des attaques illégales, des attaques physiques, des meurtres de personnes. Et vraiment, c'est tout un ensemble de violations qui font qu'aujourd'hui, ces personnes vivent dans la détresse et sont appelées à se déplacer très régulièrement afin de pouvoir rester en vie.
Dans ce rapport, OCHA affirme aussi que la capacité des FARDC et des forces de la MONUSCO à sécuriser ces territoires est limitée. Et c'est en quel terme?
Ben, en termes de présence, en termes d'effectifs, il n'y a pas assez d'effectifs de soldats, ni de FARDC, ni de MONUSCO dans cette partie du territoire. Évidemment, cela se fait par diverses raisons, mais tout compte fait, il y a un manque de soldats qui pourraient être exploités par ces groupes armés pour commettre ces violations. Peut-être que si on avait plus d'hommes sur le terrain, cette présence-là serait beaucoup plus dissuasive envers ces groupes qui se disent, bon, écoutez, il y a un vide sécuritaire ici, il n'y a pas assez de casse-bois, il n'y a pas assez de FARDC, allez, on y va, on va attaquer ces personnes.
En termes de présence dissuasive, vous dites aussi que si la présence de la MONUSCO n'est pas renforcée dans cette zone, les habits continueront ainsi que les déplacements des populations, c'est ça?
Oui, sans un changement dans la présence militaire dissuasive de soldats, tant des FARDC que de soldats casse-bleu, nous ne voyons pas vraiment, en tout cas dans le court terme, comment est-ce que ces bonnes armées, ces groupes armés cesseront de s'en prendre à cette population. Ils n'ont carrément aucune raison puisqu'il n'y a rien pour les empêcher. Donc effectivement, si nous voulons voir une amélioration significative dans le vécu quotidien de ces personnes, dans la protection de ces personnes, il faudrait mettre non seulement des mesures militaires appropriées, évidemment aussi s'assurer qu'il y a aussi des acteurs humanitaires et des acteurs de développement qui sont présents sur le terrain afin de pouvoir contribuer à restaurer la paix et la stabilité dans cette partie du pays.
Et à ce jour, combien s'élève le nombre de déplacés internes et quels sont leurs besoins?
Alors, à ce jour, le Katanga a plus de 320 000 personnes déplacées, ce qui représente en fait une augmentation de près de 400% au cours des 12 derniers mois. C'est la province qui a enregistré le plus grand nombre de personnes déplacées, vu les différents événements qui sont succédés. Aujourd'hui, en termes de besoins, ce sont les besoins classiques dont ont besoin les personnes déplacées, de la sécurité, de la protection physique, de la nourriture, des médicaments, de pouvoir se protéger contre des maladies comme le balu, le choléra. Donc c'est un ensemble de besoins qui sont impératifs pour ces personnes.
Il y a les humanitaires, ont des réponses à donner à ces besoins?
On a des réponses, on a toujours eu des réponses. Il y a des acteurs qui sont sur le terrain, des ONG nationales et internationales, des agents des Nations Unies qui sont sur le terrain. Donc aujourd'hui, il y a une présence physique sur le terrain. Il faudrait peut-être envisager de renforcer et d'améliorer cette présence afin que le plus grand nombre de personnes puissent être prises en charge à travers les différents mécanismes d'appui et les projets que nous avons pour apporter de l'aide.
Dernière question, Yvan Edoumou. Le rapport de OCHA se termine avec une série de recommandations. Qu'est-ce que vous avez recommandé au gouvernement et à la MONUSCO?
Bien, au gouvernement, nous recommandons une attention beaucoup plus accrue sur cette province, à tous les niveaux. Que ce soit une attention accrue en termes de présence militaire physique, une attention politique à la situation. Vraiment, aux autorités congolaises, nous demandons de mettre en œuvre tous les moyens, d'utiliser tous les leviers qu'elles ont pour pouvoir pacifier au mieux cette province, parce qu'évidemment, elle y va de la stabilité du Congo. C'est fort dommage de voir qu'aujourd'hui, c'est carrément tout l'est du Congo qui est en conflit, et cela même n'est pas une situation radieuse pour les autorités congolaises. Aux autorités de la MONUSCO, nous demandons, dans la mesure du possible, nous savons qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément en claquant les doigts que les choses vont se faire, mais nous demandons aux autorités de la MONUSCO de revoir en quelque sorte dans quelle mesure elles peuvent revoir les effectifs des militaires qui sont sur le terrain, dans quelle mesure améliorer la collaboration avec certains acteurs de terrain afin d'apporter une meilleure protection à ces personnes qui sont dans la détresse.
Yvan Edemont, merci de votre disponibilité.
Merci à Radio Okapi.
Et notre nouvelle en province, c'est cette campagne contre l'automédication et toute pratique de traitement à domicile des maladies infantiles dans la zone d'Isangi. Vous l'avez compris, nous sommes en province orientale. Cela avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Joseph Bassaï de la radio Bundeko nous parle avec plus de détails de cette campagne.
Les traitements à domicile des maladies par l'automédication fait souvent des victimes à Isangi. Selon les rapports de la zone de santé de janvier dernier, après l'épidémie de rougeole l'année dernière, plus de 60% des décès enregistrés sont à domicile. Il en est de même pour d'autres maladies comme le choléra à Ilondo. Les résultats de l'enquête menée une semaine après le déclenchement de cette maladie parlent de 2 morts au centre de santé sur 6 cas enregistrés. Même constat à Weko. Dans cette localité, près de 50 personnes, en majorité des enfants, sont morts du paludisme entre février et mars dernier. Selon les médecins chefs des zones de santé rurale d'Isangi, grâce à la formation reçue, les relais communautaires sont informés des signes cliniques et des maladies dangereuses à ne pas traiter à domicile. Pour quelques relais communautaires, la sensibilisation contre l'automédication permettra de prévenir les épidémies. Selon Dr Marie-José Kiko, chef du bureau provincial de l'Organisation mondiale de la santé, cette activité est une suite de l'appui de son organisation à la zone de santé d'Isangi. Isangi, Joseph Bassaï, Radio Bundeko pour Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Tangongai na lelaka. Motondi mangaite.
Mon nom est Alain Brahim. Je suis marié. Je suis péruvien. Je suis monteur et aussi réalisateur vidéo. Je travaille au sein de la section vidéo qui est une unité de la division information publique de la MONUSCO. Je suis ici en RDC depuis mai 2007. Ça fait presque 6 années déjà. En tant qu'unité vidéo, nous produisons une émission télévisée hebdomadaire, On un magazine, qui est diffusée chaque semaine sur 9 chaînes de télévision les plus importantes de la RDC. À travers de ce programme, nous montrons les activités de la MONUSCO de chaque semaine. Et nous aussi produisons des portraits des Congolais qui, par leur travail, apportent quelque chose de positif pour le pays. Ils peuvent être musiciens qui ont fait une chanson sur la paix, un artiste, peintre, sculpteur, ou un encadreur qui apprend aux enfants de la rue des petits métiers comme la céramique, la cornerie, des souverains, etc. Chaque semaine, je suis obligé de trouver un Congolais pour en faire une histoire pour notre programme de télévision. C'est comme ça, toutes les semaines. Et par moments, je descends sur le terrain pour filmer des histoires avant de me consacrer des autres jours de la semaine au montage des reportages réalisés. Avant de venir à la MONUSCO, j'ai travaillé comme chef de montage pour différents programmes de télévision et de nouvelles dans mon pays, le Pérou, qui se trouve dans l'Amérique du Sud. J'ai aussi travaillé dans cette époque-là comme monteur de télévision et de films. Et j'ai également travaillé en tant que directeur de vidéos d'entreprise, parfois. Pendant mon temps libre, je lis, je regarde des films et je rédige, mais surtout je fais la musique. Hein. Depuis 4 ans, j'ai un groupe de musique où j'ai évolué avec des amis congolais comme chanteur. Nous avons commencé comme un groupe de rock À cette époque-là, on s'appelait les vents des sauvages. Après, on a évolué dans les salsas et on a changé le nom à Mundele et son Tumbaco. Présentement, nous préparons trois concerts qui serviront de dire adieu aux Congolais parce que je vais bientôt quitter la mission de Monusco au mois de mai de cette année. Après la mission, je vais créer chez moi, au Pérou, une entreprise pour réaliser des films documentaires. Et si je trouve des amis dans la musique, comme je n'ai trouvé ici au Congo, pourquoi ne pas continuer à faire de la musique rock? Le plus grand souvenir pour moi, c'est mes amis musiciens. J'ai partagé beaucoup de jours avec mes amis musiciens, avec les souffrances. Il y a beaucoup de choses compliquées pour les musiciens ici au Congo. Tu vois, il y a les problèmes des droits d'auteur, il y a la piraterie. Même s'ils font beaucoup de talent, ils ne peuvent faire rien parce que c'est très, vraiment compliqué pour publier un CD. Il n'y a pas d'usine musicale. Donc, mes mémoires ici au Congo, tous les souvenirs les plus profonds pour moi, c'est tout le temps que j'ai partagé avec les amis musiciens, même dans les groupes et même dans la rue en train de s'amuser. Hein. Oui, je connais bien Kinshasa, je connais bien... je connais Kimbanseke beaucoup. J'étais beaucoup de fois à Kimbanseke parce qu'il y a beaucoup d'amis qui habitent là. Je connais les esprits de mort, les mourats, je connais des choses que... Parce que mes amis congolais, c'est ils qui m'enseignent tout ça.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Bonjour Radio Okapi, magazine des Nations Unies. Je suis Pierre Mbouy Dubois, agent à la subdivision de l'EPSP Tilin. J'ai une question à poser au PAM. Pourquoi de la gestion des cantines scolaires ici à Tilin, les PAM ne prend pas en charge les mamans qui préparent la nourriture distribuée aux élèves? Merci.
Merci bien à vous, Pierrot Mbouy d'Ivoire. Nous avons contacté pour vous Claude Kalinga du PAM. Claude, vous avez suivi la question de l'auditeur de Chilingue. Que lui répondez-vous?
Merci beaucoup pour votre question. Mais contrairement à cette affirmation, le PAM prend bel et bien en charge les cuisinières. Cette prise en charge n'est pas financière, il faut le souligner. Le PAM donne à chaque cuisinière une ration mensuelle constituée de la farine de maïs, des légumineuses, huile de cuisine et de cellules D. Dans le cadre de son programme Travail contre nourriture. Donc il faut différencier le cantine scolaire de notre programme Travail contre nourriture. Le PAM prend également en charge deux membres de famille de la cuisinière. Il est donc important que les communautés, en particulier les parents d'élèves, participent à leur façon à l'amélioration des conditions de vie de leurs enfants. Dans beaucoup de pays, les cuisinières sont des volontaires, souvent des mamans d'élèves qui donnent de leurs dents pour aider les enfants. Les Nations Unies sont là pour alléger les souffrances des populations, mais celles-ci doivent s'impliquer, participer. C'est très important pour le long terme. Actuellement, le PAM nourrit près d'un million d'enfants en RDC à travers le programme des cantines scolaires afin d'améliorer le taux de scolarisation et limiter les abandons en cours de scolarité. Le gouvernement congolais soutient activement ce programme qui un jour pourrait être pris en charge directement par les Congolais. Il est aussi important que tout le monde s'implique et apporte sa contribution pour que ce genre de programme puisse être étendu et surtout pérennisé. Voilà la réponse que le PAM donne à la question de M. Pierrot Mbouy.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
À vos carnets pour les rendez-vous de cette semaine. Parmi les dates à retenir, le 17 mai, c'est la journée mondiale des télécommunications. En prélude de cette journée, le message de Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, félicite l'accent mis cette année sur la sécurité routière à l'occasion de cette journée, tirant le meilleur parti de la technologie pour réduire considérablement les décès dus aux accidents de la route. Nous pouvons ainsi sauver des millions de vies, a-t-il déclaré. C'est la fin du magazine des Nations Unies de ce dimanche. Merci d'avoir suivi cette émission supervisée par Nicole Ngaka. Honoré Missenga était au reportage, Mouamila Kimbwini derrière le micro et Patricia Songwa à la régie. Vous venez à peine de vous brancher sur Radio Okapi, pas de panique. Vous pouvez suivre la rediffusion de cette émission à 19h03, heure de Kinshasa. Une heure de plus à Manono et dans tout l'est du pays. Une émission que vous pouvez aussi suivre sur internet, www.radiookapi.net. Vos suggestions, vos questions ou vos remarques nous intéressent. Faites-nous les parvenir en appelant au 082 30 76 630, en postant un commentaire sur le site internet en dessous du magazine des Nations Unies ou encore en nous envoyant un mail à notre adresse maguyen@radiookapi.net. Merci encore de nous avoir suivis et excellente journée dominicale à tous.